Avec un disque, un CD gratuit offert par sélection du Ranger Digest, j'ai reçu il y a déjà quelque temps une lettre qui portait ces mots imprimés en rouge et qui disait « Quand sélection vous dit c'est gratuit, eh bien c'est vraiment, c'est totalement gratuit. Alors que rien ne vous arrête, etc. etc. » Et je suis resté, demeuré songeur. Et je voudrais partager avec vous, si vous me le permettez, quelques réflexions que les lignes que j'ai reçues m'ont suggérées. Il existe un certain nombre de firmes qui sont assez connues et assez sérieuses. Des firmes qui ont fait leurs preuves et qui ont tout intérêt à ne pas perdre leur clientèle et leur réputation. Et sélection du Ranger Digest en est, c'est évident. Alors, on peut nous dire, quand sélection vous dit c'est gratuit, eh bien c'est vraiment, c'est totalement gratuit. Seulement ce qui est gratuit dans le cas cité, c'est le premier disque que l'on vous offre. Les autres, les suivants, si nous sommes séduits par la qualité du premier, eh bien il faudra les payer. Et vous me direz que c'est bien normal, sinon la firme aurait dû depuis longtemps mettre la clé sous la porte et faire son bilan. Il n'empêche que beaucoup, sans doute, comme moi, ont accepté le disque gratuit et l'ont vraiment reçu. Et pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons fait confiance, parce que nous n'avons pas soupçonné derrière ce procédé publicitaire, tout à fait légitime, et d'ailleurs finalement rentable, nous n'avons pas soupçonné une manœuvre quelconque destinée à nous tromper. Nous convaincre sans doute, mais pas nous tromper. Et il est donc bien des clients qui font confiance et acceptent ce qui leur est offert, et qui pourtant, dans d'autres domaines, refusent de faire confiance, refusent de croire. Car s'il est une chose dont on nous est dit qu'elle est gratuite, vraiment, totalement gratuite, entièrement payée, eh bien c'est le salut, la vie éternelle, offerte à tous sans distinction, payée déjà entièrement depuis plus de 2000 ans, et que pourtant tant d'hommes s'obstinent à refuser. Et pourquoi ? Eh bien, il y a bien sûr ceux qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils se veulent athées, parce qu'ils ont décidé de l'être, et puis parce que ça les arrange. Et ceux qui n'en veulent pas parce qu'ils savent, et ils ont raison sur ce point, que leur vie en serait bouleversée, qu'il leur faudrait ensuite changer, et comme ils sont très contents de leur petite existence, mais il en est d'autres qui s'affirment comme croyants, ceux-là, qui s'efforcent de vivre selon les principes de la religion, pour reprendre le vocabulaire, et qui désirent ardemment être un jour au bénéfice de la béatitude céleste. Eh oui, et qui pourtant refusent de prendre Dieu au mot. Cela paraît plus invraisemblable. Pourtant, peut-être, en êtes-vous, mes amis, l'ami qui m'écoute ? Quand Dieu parle, peut-on douter ? S'il dit « c'est gratuit », est-ce moins vraiment, moins totalement gratuit que quand sélection le dit ? Dieu, dit un jour Balaam, le prophète, et plus tard Samuel, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Eh bien non, Dieu ne saurait mentir. Or, qu'a-t-il dit ? Il faudrait ici citer un grand nombre de textes tirés des Écritures saintes de la Bible, des textes qui affirment clairement la volonté divine de sauver l'homme, de l'arracher à sa condition misérable pour lui accorder la vie même de Dieu. Les plus claires de ces déclarations sont sans doute celles de Jésus lui-même. Il disait en parlant de ce qu'il appelait « ses brebis »,« je leur donne la vie éternelle, donne ». Il disait à tous ceux qui l'écoutaient « Quiconque croit en moi me fait confiance à la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Dieu a ainsi aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donnerait du repos. Jésus a parlé de son corps qu'il donne, oui, comme une nourriture, de son sang qu'il donne comme breuvage, du vrai pain du ciel, de sa vie. Partout et toujours, il utilise ce merveilleux verbe « donner ». S'il nous fallait offrir quelque chose en retour, ne nous y trompons pas. ce ne serait plus un don, ce serait un échange. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Et il nous est impossible de marchander, de troquer quoi que ce soit contre la vie de Dieu, en échange de son salut. Pauvres insensés que nous sommes, si nous croyons acquérir quelque chose de Dieu par nos efforts ou nos mérites, les épîtres viendront confirmer lumineusement la gratuité du salut, parfois, comme dans le chapitre 6 des Romains, par un merveilleux pléonaste, il nous est écrit « Le salaire du péché, écrit l'apôtre Paul, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » un don n'est-ce pas toujours gratuit par définition ? Pourtant le texte original, déjà, dans le but de lever tout équivoque, multiplie à dessein cette idée de gratuité. Prenons encore cet autre texte de l'Épître aux Éphésiens, et où il nous est dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, vos mérites n'y sont pour rien, afin que personne ne se glorifie. » Nouvelle accumulation, c'est une grâce, un don indépendant des mérites. Comment pourrions-nous, sans craindre d'offenser Dieu, vouloir payer nous-mêmes ce qu'il nous offre ainsi gratuitement ? N'est-ce pas insensé ? Ce l'est doublement en fait, d'une part parce que nous n'avons rien qui nous permette de payer ce salut. Que pourrions-nous offrir à Dieu en échange ? Qu'avons-nous à lui donner ? Le prophète Ésaïe disait très bien qu'aux yeux de Dieu, même notre justice, c'est-à-dire ce que nous avons de meilleur, ressemble à un vêtement souillé, qu'il ne prendrait pas avec des pincettes. Nos meilleures actions sont souillées, entachées d'égoïsme ou d'orgueil. Il faut être insensé et complètement aveugle pour ne pas voir que nous sommes absolument incapables de lui donner quoi que ce soit, sinon notre misère. Vous me direz que l'homme parvient quand même à faire de belles choses, des gestes d'amour désintéressés. Oui, d'accord. Et dans une certaine mesure, l'homme peut accomplir des choses relativement belles et bonnes, mais relativement seulement. Au regard de Dieu et de sa sainteté, c'est comme le vêtement propre dont les taches apparaissent quand un rayon de soleil vient le frapper. Et puis, il est incontestable que Dieu, par le moyen de l'homme, peut faire de grandes et belles choses, mais ne renversons pas les rôles. C'est Dieu qui les fait, pas l'homme livré à lui-même. En fait, la Bible est claire. Le cœur de l'homme, en dehors de la grâce divine, est incurablement mauvais, malin, méchant, inintelligent. Non, nous ne pouvons payer le prix de notre salut. D'autant que ce prix, Dieu l'a fixé. Et il est hors de notre portée, mes amis, même si nous n'étions pas si foncièrement corrompus. Ce prix, c'est une vie innocente, sainte. Déjà dans le judaïsme, Dieu, par Moïse, avait ordonné que l'on sacrifie les animaux innocents pour symboliser à l'avance le sacrifice à venir de Jésus-Christ, l'homme sans péché, mis à mort pour effacer le péché du monde. Qui donc aurait pu offrir une vie sans péché pour payer le prix de notre salut ? Certainement pas moi. Mais il est encore une autre raison qui nous permet d'affirmer qu'il serait insensé de vouloir payer le salut que Dieu nous offre. C'est que ce serait une manière de mépriser le prix, précisément, que Jésus a payé pour nous. Il a déjà payé pour que ce salut, cette vie éternelle, nous soit donné. Et nous lui dirions « Ton cadeau, je n'en veux pas ». Je veux payer moi-même ? En d'autres termes, ce serait prétendre que Jésus n'avait pas besoin de mourir, que nous pouvions nous passer de lui. Il me vient à l'esprit une image qui peut nous aider à comprendre. Imaginez, mes amis, un homme tombé au cœur d'un torrent impétueux, jeté de rocher en rocher, de remous en remous. Quelques forts gaillards courent à son secours, au mépris de sa propre vie, ôte ses vêtements, se jette dans le courant et affronte mille morts. Et quand il tend la main du désespéré, celui-ci se détourne et lui dit « Non, merci, vous êtes bien gentil, mais je m'en tirerai bien tout seul. » Ou bien encore, il se laisse arracher au flot, mais arrivé sur le rivage, il fouille dans sa poche, il y trouve quelques piécettes et prétend payer son sauveteur. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, sur la croix. Il a prononcé ces paroles extraordinaires. Il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a rien à ajouter, son œuvre de salut est parfaite. Comment oserions-nous prétendre qu'il nous faut encore gagner d'une manière ou d'une autre ce pourquoi il a donné sa vie ? C'est insensé. Devant l'immensité de son amour, mes amis, devant l'entière gratuité de son salut, il n'y a qu'une attitude possible, une immense reconnaissance, un amour en retour, tout le reste est blasphématoire. Quand Sélection dit « c'est gratuit », c'est vraiment gratuit. Et quand c'est la Bible qui le dit « laisse-moi », la vie éternelle est gratuite, vraiment et totalement. Vous voulez en douter ? Alors vous continuerez sans doute à vivre dans l'inquiétude, dans la fièvre d'un salut que vous voulez gagner par vos propres efforts, mais sans jamais être sûr d'en avoir assez fait pour le mériter, sans jamais aucune vraie paix, aucune vraie certitude, alors qu'il suffit de prendre Dieu au mot. Celui qui croit en lui a la vie éternelle, il suffit de s'en emparer par la foi, et c'est alors la réalité la plus solide, la plus certaine qui soit. Puisque c'est Dieu qui le dit, aujourd'hui, ami, adresse-toi à Dieu. Dis-lui merci pour le salut qu'il t'offre comme un don gratuit, comme une grâce absolument imméritée et réjouis-toi. Si tu le crois, tu peux être sûr, tu es sauvé.